programme aujourd'hui une déambulation littéraire et une grande traversée philosophique. Le philosophe et écrivain Régis Debray, en effet, ancien compagnon du Che et conseiller de François Mitterrand, cette vieille chouette qui se dit aujourd'hui fatiguée après 60 années de survol, se raconte et nous raconte dans un siècle l'autre chez Gallimard. Il sera avec nous, après le journal, dans la grande table des idées. Mais d'abord, notre première invitée, Muriel Pic, l'affranchie. Écrivaine, traductrice, critique littéraire et archiviste, entre poésie, prose et essai, elle signe au seuil un livre de fragments, Affranchissement, et vient d'obtenir pour ce livre la mention spéciale du prix Wepler qui récompense des œuvres audacieuses et inclassables. Tandis que le prix Wepler, Fondation La Poste, a été décerné par un jury, présidé par la libraire Marie-Rose Guarnieri, et auquel j'ai le plaisir d'avoir pu participer. Nous la retrouvons donc dans quelques instants sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Un prix Wepler décerné cette année à Grégory Le Floch pour De parcourir le monde et d'y rôder. Et une mention spéciale pour ce livre Affranchissement de Muriel Pic, notre première invitée. Repartant de la figure d'un grand-oncle décédé, en 2000-2001, la narratrice nous emmène au fil des pages dans un voyage littéraire, entre timbres et plantes, entre petits récits et grandes anecdotes, d'une langue à l'autre, du poète américain Williams à l'écrivain allemand Sebald, une déambulation littéraire par fragments. Bonjour à vous, Muriel Pic.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous en direct de Berne, où vous enseignez. La compétition n'a rien à faire avec la littérature, écrivez-vous dans votre discours qui sera prononcé, on l'espère, de visu quelque part, à un moment donné, à l'occasion de la remise de ce prix, mention spéciale du Wepler. La compétition n'a rien à faire avec la littérature, la reconnaissance, si. En quoi ?
Alors, cette distinction, je la faisais parce que la compétition, comme la concurrence, hein, oublie que chaque écrivain, en fait, a besoin d'être lu comme le seul écrivain, avec une expérience singulière, particulière. Alors que la reconnaissance, quand on se reconnaît, on met quelque chose ensemble, on met quelque chose en commun, on produit du lien. Et je crois que la littérature, elle est là aussi pour mettre ensemble et pour produire du lien. Et dans le discours, j'ajoutais d'ailleurs que Platon, à un moment donné, enfin dans le livre 10 de la République, préconise d'éloigner de la politique et de la cité les poètes. Et je pense qu'il a raison, puisqu'ils sont capables de produire du lien et de produire une force commune. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils s'en méfient autant.
Alors, c'est pas les cloches de Bâle qu'on entend derrière vous ? Parce que vous êtes à Berne, qu'est-ce que c'est ?
Ce sont bel et bien les cloches de Berne que vous entendez derrière moi.
Bon, il y aurait moyen de faire un livre à ce sujet un jour. Il est midi 6 maintenant sur France Culture. Cette expérience singulière que vous évoquez, on sent que... Pour vous, c'est en tout cas le cas comme lectrice, mais aussi comme écrivaine. Vous avez vécu ces pages rédigées pour Affranchissement, cette aventure littéraire, comme une expérience singulière. Et vous le racontez que c'est dans un moment de doute, une sorte de crise de la quarantaine, que vous retombez et vous replongez dans une collection de timbres. Vous vous sentez un peu précarisée, enfermée, à l'étroit dans votre vie, et vous vous replongez dans ce legs que vous a fait ce grand-oncle Jim. À présent, je me dis qu'il fallait sans doute en passer par là pour le retrouver, lui, Jim. En passer par quoi ?
Alors c'est vrai que c'était une période, il y a 4 ans à peu près, tout était très indécis. Enfin, je me posais beaucoup de questions existentielles, je m'interrogeais beaucoup sur la liberté, sur la vérité, et puis en même temps c'était tellement énorme comme question que je savais pas du tout comment y répondre. Et en même temps, ma propre vie me poussait à m'interroger sur ces grands idéaux, ces grandes utopies, j'ai envie de dire. Et puis, je m'en rendais bien compte aussi que ma liberté, par exemple, elle était toujours mise en danger par ce que j'aimais le plus, hein, par exemple, mon enfant, mon amoureux. Et là, j'avais du mal à comprendre comment articuler ces deux choses. Et puis le hasard d'un déménagement m'a mis entre les mains la collection de timbres. Et je me suis rendu compte que j'avais pas ouvert une partie des enveloppes qui m'avaient été envoyées. Et il m'a semblé, en les ouvrant, que là, j'avais justement la réponse que j'attendais sur cette question de la liberté. C'est-à-dire que je me suis finalement rendu compte qu'il n'y a sans doute de liberté, mais enfin, après, je veux pas être affirmative, hein, je pense que ce sont des choses que chacun travaille à sa manière, mais je pense qu'il y a surtout que la liberté, pour moi, c'est devenu une liberté dans les liens, finalement. Voilà, et qu'il y a de liberté et de vérité, pour prendre un autre mot assez énorme, que dans le rapport à l'autre, entre nous. Et pas en soi ou de manière isolée.
Voilà, la liberté n'est pas un sujet solitaire. Je voulais parler de liberté. J'ai ouvert une collection de timbres et retrouvé la ruine d'une famille, écrivez-vous Muriel Pic. Étrange réponse des mots et des images à la question de l'affranchissement. Comment parler de liberté aujourd'hui alors qu'on a justement le sentiment que c'est ce qui nous manque le plus, que nos libertés sont sous surveillance, que nous sommes là encore, comme vous l'avez vécu au moment le début de cette quête, enfermés, précarisés aussi dans nos manières d'être.
Je crois qu'il faut constamment rejouer l'idée, en fait. Il faut toujours avoir l'énergie suffisante pour relancer la question et pour ressaisir une réponse qui devra de nouveau changer et qu'il faudra de nouveau remettre sur la table de travail. Enfin, je pense qu'il faut continuellement travailler. Enfin, il faut continuellement vouloir parler de la liberté, vouloir parler de la vérité. Enfin, qu'il faut sans cesse avoir cette énergie-là et cela transmettre, en fait. Je pense pas qu'on puisse trouver. Enfin, il faut toujours se battre pour être libre.
Quelles sont vos définitions aujourd'hui du mot affranchissement? Parce que le titre du livre, hein, d'ailleurs, c'est affranchissement avec un S, affranchissement au pluriel. Quelles en sont vos définitions, Muriel Pic?
Je dirais pour moi que l'affranchissement, c'est déjà franchir. Hein, franchir comme auteur les formes littéraires, hein, ne pas me laisser enfermer dans des codes. Donc toujours essayer de repenser qu'est-ce qu'un poème, qu'est-ce qu'un roman. C'est aussi sortir de ma langue, aller vers d'autres langues, et puis essayer aussi de traiter ma propre langue comme une langue étrangère. Donc toujours incorporer de l'autre et me mettre en danger, s'affranchir des habitudes, s'affranchir de tout ce qui pourrait nous rassurer trop vite, trop rapidement, à trop bon compte. Je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup d'exigences avec soi, et il y a aussi des grands moments de découragement, mais la littérature aussi est là pour redonner des impulsions, pour ouvrir des bifurcations, enfin proposer des bifurcations. On peut très bien commencer à lire affranchissement, puis l'abandonner, puis partir sur autre chose et revenir plus tard. Enfin, pour moi, c'est un mode de lecture que je pratique et que je souhaite aussi aux lecteurs.
Et c'est aussi un mode d'écriture. C'est comme ça que vous l'avez écrit. Vous vous êtes saisi de certains fragments par moment. Vous les avez mis de côté. Vous en avez repris d'autres.
Alors j'ai écrit, je me suis aussi beaucoup appuyée sur les images, hein, je me suis aussi beaucoup appuyée sur les rêves, c'est-à-dire que quand j'ai des choses que je veux écrire, ou des choses que je vois dans une image, c'est vrai que je m'endors avec, et puis après il y a d'autres images qui surgissent, hein, des images oniriques, et puis avec ça je travaille. Mais non, je l'ai écrit plutôt d'une manière assez enfin, il y a de la divagation, mais en même temps, pour que la divagation fonctionne, il faut des contraintes et il faut se fixer à soi ses propres contraintes. Et dans le cas d'affranchissement, je voulais donc produire un livre par fragment. Donc le fragment exige de construire beaucoup par répétition, par reprise. Et à force de repasser, il y a quelque chose qui va apparaître. et se donner pour être deviné par le lecteur. Hein, cette idée de que le lecteur vient intervenir, vient entre les fragments à l'intersection. Ça, j'y tiens beaucoup parce que ça produit aussi du désir de lire, du désir de comprendre. Donc, pour l'écrire, en fait, je suis vraiment partie sur une idée qui est toujours d'avoir deux temporalités, c'est-à-dire d'un côté les timbres que j'ai ouverts de 99 à 2001, me renvoyer aux dernières années de la vie de Jim. Et en même temps, ces timbres, comme ce sont les timbres du millénium, me permettaient de me renvoyer à un temps historique, un temps qui commémorait justement tous les grands événements du millénaire qui venaient de s'achever. Donc j'avais comme ça deux échelles, j'ai envie de dire, une échelle microscopique et une autre macroscopique, et puis là j'avais comme ça une marge de manœuvre entre les deux, avec des images qui à la fois se rapportaient à une vie tout à fait banale et de l'autre côté à des événements collectifs. Puis j'avais été assez marquée personnellement par ce passage à l'an 2000. J'avais été assez frappée de voir tout ce que ça a pu produire comme imaginaire de fin du monde et d'apocalypse. Et je crois que j'avais aussi envie de parler de ce rapport-là qu'on a pu avoir au temps.
C'est ce qu'on racontera aussi dans la deuxième partie de la Grande Table aujourd'hui avec Régis Debray, qui fait cette grande traversée d'un siècle à l'autre dans cet ouvrage qui vient de paraître, Un siècle l'autre, chez Gallimard. S'affranchir de qui, s'affranchir de quoi? Dans ce livre dispositif, Muriel Pic, vous aviez envie, on l'entend, d'interroger aussi les voies de l'émancipation. Le point de départ de cette enquête littéraire, c'est donc l'affranchissement, celui de la carte ou de la lettre, celui de la collection de timbres, de la philatélie de l'oncle Jim. Il a mené une vie extrêmement modeste et tranquille, écrivez-vous, au milieu des fleurs, des plantes et des timbres. Vous disiez à l'instant une vie banale. Est-ce qu'on peut la raconter quand même, cette vie, où elle a commencé à Menton, pour terminer, et ce sera dans vos mots, sur la mort de Jean, mais ce qu'elle, ça a pu révéler en vous? Qu'est-ce que vous appelez une vie banale?
Disons une vie extrêmement discrète, une vie qui dans ce cas-là, alors peut-être elle est à ce point-là que, enfin, elle est tellement banale qu'elle finit par être assez extraordinaire. Ce que je voulais dire par là, c'est que une vie qui est vraiment comme on en a tous en fait, hein, qui n'a pas de relief qu'on peut saisir immédiatement. Une vie comme on en passe tous, hein.
Elle a quand même un relief, cette vie, hein, puisqu'elle a elle a la forme d'une bosse, celle que Jim avait et qui donne lieu dans votre livre aussi à plusieurs digressions, divagations, comme vous dites, et des images assez poétiques, hein, cette bosse, cette carapace, cette cuirasse sur laquelle roulaient aussi des rêves de vie heureuse et partagée, vie banale, mais vie épanouie, hein, pour Jim.
En vérité, quand je dis banal, je pense aussi à ce couple que j'ai essayé de produire entre mon grand-oncle, enfin entre ce personnage et le poète Williams, où là évidemment il y a un auteur qui est connu, reconnu, enfin qui est en même temps mal connu en France, et puis quelqu'un qui a cheminé comme ça dans l'existence. Alors cette vie de Jim, elle m'a aussi ramenée à la question de ce qui est dont on n'a pas parlé curieusement dès le début, enfin de cet entretien, ce qui nous aliène le plus, c'est-à-dire l'argent. Et c'est vrai que Jim et puis le son frère, sa sœur, a quand même porté beaucoup une sorte de traumatisme familial lié à la ruine de la famille. Et là, ça a impliqué des rapports à l'argent relativement complexes et une pratique de l'économie dans laquelle se venait se placer aussi cette collection de timbres, je pense, de manière assez... c'était vraiment un investissement et un héritage qui m'était fait, une sorte de un legs, une donation. Et qu'est-ce que moi, je devais faire avec ça? En quoi ce don, ce legs m'endettait, me mettait en dette? Qu'est-ce que je pouvais, comment ça venait menacer ma liberté ou me donner une liberté supplémentaire? C'est un petit peu comme ça que les choses, c'est un peu comme ça que je les ai travaillées, fantasmées avec des fantômes qui sont aussi beaucoup passés par les images.
Et cette liberté, elle se cache aussi derrière chaque timbre, hein, cette liberté du voyage, cette histoire aussi que chacun des timbres peut receler. Vous évoquez cette dette, ce legs. Au fond, qu'est-ce qu'il vous a légué, l'oncle, ce grand-oncle Jim? Vous le soulignez à un moment et il semble que c'est ce que vous ayez aussi découvert à travers cette quête littéraire, c'est ce sens du détail qui est devenu très important pour vous.
Oui, alors ça c'est vrai qu'en m'envoyant les timbres et puis dans les conversations, les rencontres que j'ai pu avoir avec lui, mais encore, ces rencontres ont été malheureusement très trop rares. Cette attention, cette manière qu'il a pu avoir de me faire regarder des choses toutes petites, microscopiques, hein, à la loupe, hein, c'était même un jeu. Je crois que ça a influencé quand même ma manière de lire, de penser et d'écrire. C'est vrai que j'ai une prédilection pour les choses, pour le détail et avec ce que ça peut avoir même de presque d'une forme de fétichisme dont j'essaie de me défendre, hein, quand même. Mais il y a aussi toute il y a quelque chose de très fondé dans le désir aussi, quand on s'accroche sur un détail et qu'on ne le lâche pas. Donc là, c'est vrai qu'il y a vraiment une vision du monde qui m'a été aussi léguée, enfin donnée, et qui était aussi présente dans son intérêt, alors qu'il partageait beaucoup aussi avec mon grand-père pour les plantes, les fleurs, le jardinage, la botanique. Donc là, c'est vrai que j'ai aussi bénéficié finalement de toute cette éducation qu'ils ont pu acquérir grâce aux moyens qui étaient ceux de la famille jusqu'à ce qu'ils aient environ qu'ils soient au début de l'adolescence. Hein. Donc c'est vrai qu'ils m'ont transmis aussi tout ça en même temps qu'une sorte de peur d'être aliénée par l'argent.
Quand j'ai vu Jim pour la dernière fois, écrivez-vous, je voulais lui offrir le livre de Williams, Spring and All. C'est en pensant à lui que je l'avais acheté, lui qui aimait par-dessus tout le printemps, ses lumières changeantes, sa boue et ses floraisons. Mais par un obscur fétichisme, une prémonition bizarre, je l'ai gardé, comme si je savais déjà qu'il me faudrait par la suite pratiquer une sorte de bibliomancie pour faire réapparaître Jim, ouvrir au hasard et rituellement le livre pour retrouver sa présence. Je suis sûre que durant les mois qui lui restaient encore à vivre, il a gardé l'œil ouvert jusqu'au bout pour qu'il résulte toujours quelque chose de l'instant, conscient que les 9/10 de notre vie s'oublient en vivant. Son souvenir se confond avec ma lecture de Spring and All, sa présence avec la voix de Williams, le désir de liberté qui se dégage de ce livre avec son amour pour tout ce qui se rapporte à l'affranchissement.
Spring and All. By the road to the contagious hospital, under the surge of the blue mottled clouds driven from the northeast, a cold wind beyond the waste of broad, muddy fields, brown with dried weeds, standing and fallen.
Thank you.
quelques mots de William Carlos Williams à l'occasion d'une lecture qu'il avait donnée de ce poème Spring and Old, suivi du deuxième mouvement du Quatuor numéro 8, Razoubovski de Beethoven, interprété par le Quatuor Eben. C'est ce même Quatuor qu'il interprétera ce soir, ce lundi 23 novembre à 20h30 en direct et sans public, à voir sur le site de la Philharmonie de Paris.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Son annonce a été reportée quand les librairies ont dû fermer leurs portes pour cause de crise sanitaire. Premier des prix littéraires à être remis, avec l'espoir maintenant d'une réouverture prochaine des librairies, le prix Vépler. Le prix qui a été décerné cette année à Grégory Le Floch pour De parcourir le monde et d'y rôder. Et une mention spéciale du prix Vépler pour l'écrivaine Muriel Pic pour cet ouvrage nommé Affranchissement, avec un S qui paraît au seuil. Et Muriel Pic est notre invitée pour quelques minutes encore dans ce livre Réflexion autour à la fois de l'argent, vous l'évoquiez, et du beau mot de liberté, ce mot que vous tentez d'ailleurs de définir, et vous tournez autour de toutes ces définitions avec des mots, des images aussi, et des liens sémantiques qui unissent affranchissement et liberté. Nos libertés sous surveillance, on l'évoquait. Vous êtes aussi l'auteur, Muriel Pic, des Désordre de la bibliothèque. Qu'est-ce que lire aujourd'hui? Dans quel rayon de votre bibliothèque vous êtes allé vous fournir en nourriture nécessaire pour dépasser ce moment si particulier qu'est le confinement, qu'est la crise sanitaire, même si en Suisse les conditions sont un tout petit peu plus particulières?
Oui, c'est vrai qu'en Suisse les conditions sont un petit peu plus libres. Alors pour Affranchissement, c'est vrai que j'ai beaucoup lu, j'ai été très impressionnée par le livre de David Graeber, qui d'ailleurs est mort brutalement le jour où a paru Affranchissement, le 3 septembre, qui est un livre sur la dette et sur l'histoire de la dette. Et cet auteur que j'avais entendu parler à Zurich aussi montre très bien que la dette n'est pas seulement une affaire d'économie, mais d'abord une affaire morale. Tout comme d'ailleurs la liberté, la manière dont on peut restreindre les libertés et ce qui justifie, légitime la restriction des libertés et comment on peut y réagir. Donc j'ai beaucoup lu Graeber, j'ai beaucoup lu Williams, hein, comme on l'a dit, j'ai lu aussi Mallarmé. Enfin, autant d'auteurs qui ont proposé des ouvrages qui justement sont difficiles à ranger dans les bibliothèques. Hein. Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard de Mallarmé. Ça reste un livre assez inclassable.
Mais vous revenez beaucoup sur cette question de la dette, Muriel Pic. Comment se nourrir du passé, des traces laissées par nos prédécesseurs, sans se laisser pour autant envahir par la mémoire?
Alors c'est vrai que la dette, cette notion de dette, j'essaye de la saisir dans Affranchissement, mais c'est comme vous me demandiez ma définition de l'affranchissement, ma définition de la liberté, mais c'est vrai que j'ai du mal à imposer des définitions. Enfin, j'essaye d'aller dans une direction, je forme des hypothèses, mais je ne veux pas arrêter les choses. Et c'est vrai que la dette, j'essayais de le dire avant, c'est devenu pour moi une affaire, quasiment une affaire d'amour, quoi, ou de une affaire affective. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que les gens que j'aime le plus sont les gens auxquels je dois le plus, à commencer par les auteurs du passé. Et c'est vrai que les questions de plagiat, de copyright, de propriété privée, etc., me sont tout à fait étrangères, puisque je n'ai absolument aucun problème pour dire que je dois telle phrase ou telle idée à telle personne. Et je pense que voilà, on se passe les choses comme ça de main en main en les transformant avec la liberté qu'on veut bien prendre et nous donner. Et un livre qui arrive à donner cette liberté là, je pense qu'il a quand même la liberté de devenir, hein, pas d'instruire, c'est pas une érudition qui est là pour, pour imposer des conclusions et un savoir. Vraiment, c'est vraiment pour porter un nouveau mouvement et une nouvelle question. Bifurcation.
Ex octoribus, hein, vous l'écrivez dans ce livre Affranchissement, Muriel Pic, l'écriture comme un millefeuille de paroles empruntées, de références, de mentions à des auteurs qui vous ont nourri et qui vous ont cher. Voilà, c'est un bel hommage, hein, un tombeau littéraire aussi à cette figure du grand-oncle Jim et à ce qu'il vous a légué, pas simplement des timbres, une réflexion aussi autour de l'affranchissement. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes la mention spéciale du prix Wepler, Fondation La Poste, qui a été décerné et annoncé ce matin. Merci à vous d'avoir été avec nous. Très belle journée, Muriel Pic.